Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Chaque jour, du lundi au vendredi, vous avez la parole dans le JDA pour réagir, commenter et débattre de l'actualité. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est bien sûr la libre antenne, hein. C'est vous qui faites le sommaire, c'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez réagir. Nous parlerons du cessez-le-feu intervenu hier, cette nuit plutôt, hein, entre Israël et le Hamas en Palestine. Nous reviendrons sur la position de l'Union africaine au sujet du Tchad. Et nous parlerons également du passage du président Félix Tshisekedi à Paris. Mais venez nous parler du sujet de votre choix. 33 1 55 07 58 00, c'est le sujet pour participer. Mais d'abord, nous ouvrons cette libre antenne avec quelques-uns de vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour Stéphanie. Bonjour Téléphone Radio. Bonjour l'Afrique. Moi, je ne comprends pas les propos de Félix Tshisekedi. Sa réponse à l'égard de Paul Kagame, qui s'est permis, sans gêne, sans retenue, de renier carrément tout ce que ses troupes font en RDC, donc à l'Est et un peu partout. Et en minimisant même à bouder même le prix Nobel de la paix de Denis Mukwege, en disant que non, voilà, il est manipulé, tout ce qu'il dit, c'est les gens qui lui disent de le dire. Donc en fait, il a carrément pris de court Félix Tshisekedi et tout, tout le peuple congolais. Alors Félix Tshisekedi, il vient répondre calmement, avec, je ne sais pas si il a pris ça dans une forme de sagesse ou d'intelligence ou je ne sais pas quoi, mais pour moi c'est une lâcheté, parce que quand je dis que non, j'ai de bonnes relations avec le président Kagame, donc je ne veux pas faire cela. Alors pour lui, s'il déclare, c'est-à-dire il répliquait, ça deviendra pire pour lui ou je ne sais pas quoi. Voilà pour le problème. Quand vous voulez être chef de l'État et que vous savez que cette fonction-là demande beaucoup de courage, d'audace, aussi comme l'a fait effectivement Kagame, il sait qu'on s'est déclaré comme ça et au retour, il peut avoir quelque chose de compliqué.
Bonjour Madame Hartmann. Bonjour les amis de JDA, les peuples africains, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo et les RCK. Le CMT doit rendre le pouvoir aux civils pour mieux faciliter la transition au pays d'Idriss Déby. Le CMT doit créer les conditions d'un dialogue national inclusif et rappeler une transition véritable, malgré le soutien de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine, que la paix règne dans le pays, qui est un coin stratégique pour lutter contre les terroristes. Nous souhaitons que la paix règne dans ce pays pour tous les Tchadiens, toutes les filles et tous les fils de ce pays que nous aimons, Aïkom Opondi, résistant combattant RCK.
Bonjour amis des JDA, bonjour Africa Radio. Je vais parler aujourd'hui de CESDEM. C'est un parti politique qui ne représente rien. Il ne représente rien des Maliens. Vous avez dit vous avez capable de régler les cartes du Mali. Vous avez capable de régler rien. Vous ne représentez aucun Malien niveau de la France. Vous ne représentez rien. Donc ne dis pas que vous allez parler de transition, vous allez parler des élections. L'élection ne sera jamais poussée. Les élections dans 18 mois, on va faire des élections au Mali. Il faut que les militaires retournent dans les casernes. On n'a plus besoin de ça. S'ils vous donnent l'argent que vous mangez ici, comme le temps de Ibeka, ce qui faisait certains, Ibeka prend l'argent des peuples pour donner ce qui est des magouillères. Regarde ceux qui sont là. Ils n'en parlent plus. Parce que dès qu'ils savent que la justice est dans le dos, parce qu'on attend le gouvernement pour arrêter tous ces bandits-là, ces dames, vous ne représentez rien des Maliens. Merci, ami Djedia, c'est M. Djabi.
Ami Djedia, bonjour. Un véritable coup de gueule par rapport aux informations que j'ai suivies sur Africa Radio même aujourd'hui, vendredi 21 mai 2021. Il paraît que la France est en train de mener une fronde là contre le Centrafrique. Et derrière elle, l'Angleterre, les Américains, les Finlandais, je ne sais pas qui, quoi. Donc, ces gens-là qui nous tenaillent depuis des siècles et des siècles. Ces gens-là, ces puces-là, ces punaises-là, qui nous sucent nos sangs, qui nous sucent nos richesses, qui sont là encore. Et quand M. Touadéra veut dégager la République centrafricaine des rebelles, et ils sont en train de s'opposer au motif qu'il n'y avait pas de droits de l'homme. Mais quand ces rebelles-là tuaient les Sénégalais, ils tuaient les centrafricains, les civils, où étaient-ils, ces gens-là?
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Alors je ne sais pas à quelle actualité on faisait référence, ce dernier message concernant la France et la Centrafrique. C'est vrai que, en tout cas, la Centrafrique a annoncé l'arrivée de plusieurs centaines, 600 environ, instructeurs militaires russes dans les prochains jours. Elle en a informé l'ONU et on sait comment à Bangui, Moscou. Paris s'oppose. 33 1 55 07 58 00. C'est Libre Antenne aujourd'hui. Venez nous parler du sujet de votre choix. On va tout de suite se diriger au Tchad, retrouver Alafi. Alafi, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Bonjour Alafi, merci de votre message. Vous vouliez vous réagir au cessez-le-feu qui a été annoncé cette nuit entre Israël et le Hamas et qui met fin à 11 jours de bombardements et d'affrontements.
Vraiment.
On vous écoute.
Parce que j'avais écouté qu'il y avait eu ce fait entre l'Israël et le Palestine. J'étais très fier parce que cette guerre a fait tant de vies humaines en matériel. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Je demande aux deux belligérants de maintenir toujours les mêmes caps et puis dialoguer. Et pour moi, je trouve que l'ONU doit impliquer activement pour trouver une solution vraiment définitive à cette guerre qui a vraiment coulé de sang. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Je salue aussi la médiation égyptienne. L'Égypte a joué vraiment un rôle très important dans cette crise. Donc, il faut que la solution soit définitivement trouvée.
On peut le souligner d'ailleurs, on l'oublie peut-être parfois, que finalement voilà, c'est un pays africain qui est à la médiation dans cette crise et qui a obtenu un cessez-le-feu. Voilà, il fallait peut-être aussi le souligner. Merci beaucoup à la fille. Bonne journée. On rappelle effectivement que les affrontements pendant une dizaine de jours ont fait environ 200 morts. 200 morts du côté palestinien et israélien. Et selon les observateurs, ce cessez-le-feu pourrait être fragile tant que les causes profondes du conflit ne sont pas réglées. Bonne journée, mon cher Alafi. On va justement parler du Tchad. Alors, je demande à Runa de patienter un peu. Dans un instant, on va revenir sur ce qui s'est passé il y a deux jours à Abidjan, à Bobo précisément, où suite à une fake news, comme on dit, une fausse vidéo, des Ivoiriens s'en sont pris à des Nigériens. On va en parler dans un instant avec Aruna. Avant cela, on dit un mot sur le Tchad avec Eric et Henri. Henri, d'abord, bonjour.
Oui, allô?
Bonjour Henri, bienvenue dans le JDA. Vous êtes dans quelle ville des États-Unis, Henri? Vous m'entendez?
Ouais. Oui, je vous entends très bien, Stéphanie. C'est pas facile de vous avoir. Je suis... dans le Maryland, plus précisément à Baltimore.
D'accord, la fameuse ville de Baltimore. Henri, vous voulez revenir sur l'Union africaine au sujet du Tchad notamment, et l'Union africaine hier a exigé une transition de 18 mois au Tchad, transition démocratique et pas un mois de plus.
Oui, ben écoutez Stéphanie, c'est tout simplement une formalité. Vous voyez donc comment, avec quelle pirouette ils ont utilisé pour se retrouver à exiger 18 mois. On est parti de quoi ? Pour exiger 18 mois. Est-ce que c'est cette transition qui doit être en place ou bien la constitution ivoirienne qui doit être suivie? Raison pour laquelle je vous dis, l'Union africaine, CEMAC, ce conglomérat, cette association des dictateurs de l'Afrique centrale, parce que je veux vous dire une chose. En Afrique centrale, il y a quelques présidents réunis qui font à eux seuls les mandats de tous les présidents du monde. C'est-à-dire qu'ils sont à plus de 200 ans de dictature. Ils sont environ 4 présidents en Afrique centrale. Donc, la décision de l'Union africaine ne me surprend pas. Vous comprenez? Et quand ils ont un certain truc qu'ils appellent une église réveillée, qu'ils appellent Afrique Média, là, qui ne dénonce jamais cela. Ils ne dénoncent jamais cela. Ils magnifient tous ces gens-là en longueur de journée, mais ils peuvent taper sur Ouattara, l'appeler dictateur.
Henri, on va préciser, je sais que beaucoup regardent Afrique Média, et on va quand même préciser que Afrique Média est tout sauf un média respectable, et qu'au contraire, il faut toujours se méfier ce qui est dit sur cette chaîne. Voilà.
Ouais, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est une église réveillée, Stéphanie.
Oui, j'étais plutôt d'accord avec vous, avec votre...
Voilà, parce que, écoutez, je vous ai dit, ces présidents en Afrique centrale, à eux seuls, ils réunissent plus de 200 ans de pouvoir. Et vous allez citer Biya qui a 40 ans, Sassou qui a presque 50 ans, et celui qui est décédé au Tchad, là. Afrique Média ne dit jamais rien. Mais quand il s'agit de Ouattara, qui a renoué, je n'ai rien contre... En fait, Ouattara, c'est pas un enfant de cœur, mais quand il s'agit de Ouattara, on lui tape dessus. Il ne dénonce pas ce qui se passe en Afrique centrale. Il ferme les yeux sur ce qui se passe au Tchad. Nous sommes déjà à la transition. On a oublié le fait que cette transition a violé, ce conseil de transition a violé inévitablement la constitution.
Ce qu'on entend bien, Henri, et puis on va écouter Eric qui voulait intervenir sur le Tchad. Ce que je vous entends, ce que j'entends de votre part, Henri, c'est que finalement, il ne faut rien attendre de l'Union africaine au regard de ceux qui la composent. Merci beaucoup, Henri, d'avoir ouvert ce sujet. Bonne journée à Baltimore, dans le Maryland. On continue de parler du Tchad avec Eric. Eric, bonjour.
Oui, allô ?
Oui, bonjour Eric. Alors on parlait de la position de l'Union africaine, vous voulez évoquer la position de l'Union européenne.
Justement, madame, je voulais évoquer la position et l'hypocrisie de l'Union européenne, en fait. Voyez-vous, il y a eu un coup d'État, ou je ne sais pas moi, un assassinat d'un président de la République, et l'Union européenne a fait semblant de ne pas savoir ce qui s'est passé, attendu... Que leur commissionnaire, qui est le président de la République française, se rende sur le terrain pour copter les militaires. Ils ont attendu plus d'un mois.
Attends, Eric, j'ai en train de vérifier qu'on soit bien clair. Là, hier, alors, puisque qu'on sache de quoi on parle, ce sont les députés européens qui ont communiqué. Donc les députés européens, c'est pas tout à fait la commission de l'Union européenne, par exemple. C'est quand même, ils sont plutôt élus. Et c'est les députés européens, le Parlement, qui a condamné la prise de pouvoir et qui a demandé, appelé les militaires au retour à l'ordre constitutionnel, ce qui est une position différente de celle que pourrait avoir le Conseil européen.
Vous pensez qu'il y a une différence en matière de politique internationale?
Non, c'est pas que je pense, c'est le cas, Eric. C'était deux institutions différentes, le Parlement d'un côté et le Conseil européen de l'autre. Oui. Et la Commission européenne.
Je suis d'accord avec vous. Sauf qu'il n'y a pas de différence entre la Commission européenne et les députés européens lorsqu'il s'agit d'une stratégie commune vis-à-vis d'un pays où ils ont des intérêts communs. Il faut qu'on soit déjà clair là-dessus. Ça, c'est le premier point. Et puis moi, j'ai posé la question, est-ce que c'est seulement avant-hier ou hier qu'ils se sont rendus compte qu'il y a eu un coup d'État au Tchad? Non.
Non, mais alors après, je vous arrête tout de suite, Eric. Les parlements sont réunis en session, donc j'imagine qu'ils ont attendu l'ouverture de la session à Bruxelles, c'est aussi simple que ça.
Oui, mais justement, il y a toujours moyen de communiquer du Parlement européen, à savoir les communiqués, les tweets et tout ça. Vous comprenez, même le simple citoyen que je suis, j'ai pu donner mon opinion par rapport à ça. Ce n'est pas une organisation aussi bien structurée qui ne pouvait pas ne pas donner son opinion, madame. Il faut qu'on soit...
Je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans votre propos, Eric. J'entends bien ce que vous dites. Vous dites finalement, l'Union européenne a réagi un peu tard, tout ça. Mais encore une fois, le Parlement européen, c'est une des institutions de l'Union européenne qui n'est pas forcément, d'ailleurs, forcément le reflet de la politique étrangère de l'Union européenne. On sait souvent, d'ailleurs, comment le Parlement européen prend des positions, notamment sur l'actualité africaine. On se rappelle peut-être un rapport sur le Gabon. Merci beaucoup Eric, bonne journée. On va finir sur le Tchad rapidement avec Joe et ensuite on écoute Aruna et Vincent. Joe, bonjour.
Bonjour.
Allez-y Joe, sur le Tchad, vous parlez de l'Union africaine?
Oui, en fait, peu importe, moi je pense que c'est pas à l'Union européenne de décider à la place des Africains. Bref, une fois de plus, c'est une situation au Tchad est encore un leurre. Vous allez vous rendre compte que ils parlent de transition de 18 mois, après on va organiser les élections. Ce qui va se passer, ça va être le scénario à la ATT. On se souvient du Mali. ATT a fait un coup d'État. Après, il a démissionné de l'armée. Il s'est présenté aux élections et est devenu président. Mmh. C'est ce qui va se passer au Tchad.
Bah, tant mieux, c'était plutôt un exemple d'ailleurs. ATT était souvent cité comme exemple.
Non, c'est pas un exemple. C'est pas un exemple. Non, je suis désolé. Ou bien on reste dans un processus démocratique. Et le problème, c'est quoi? C'est que dans la charte de la transition, qu'est-ce qui est stipulé dans cette charte? Parce que le diable est dans les détails. Est-ce que c'est stipulé que ceux qui actuellement sont en poste pour la transition peuvent se présenter ou pas aux élections? C'est ça, en fait.
C'est ce qui pose la question, oui.
Voilà, s'il y a un flou à ce niveau, c'est à ce niveau, c'est là le détail qui tue.
Ah, le diable est dans les détails, mon cher Joe. On a bien entendu pour vous, fallait être vigilant hein, concernant justement cette transition. Après tout, le Mali est régulièrement... Alors même si on connaît où le Mali aujourd'hui, hein, malheureusement le processus de démocratisation au Mali était plutôt salué, hein, notamment sous ATT. Merci Joe, bonne journée. Haruna depuis l'Allemagne, bonjour.
Bonjour,
depuis Francfort, si je me souviens bien.
Oui.
Haruna voulait revenir sur un truc qui s'est passé, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui s'est passé jeudi. C'est cette histoire de fake news où on voit soi-disant des militaires nigériens. Alors certains ont cru que ces militaires s'en prenaient à des Ivoiriens et en fait il s'agissait plutôt de membres de Boko Haram, je crois. Et ça a suscité une vague de xénophobie dans certains quartiers d'Abidjan où des Nigériens étaient pris pour cible.
Tout à fait, Stéphanie. Je pense que cette vidéo a été... maintes fois interprété même, Stéphanie. Parce que moi, j'avais reçu cette vidéo le samedi passé et c'était une femme qui parlait. Et cette femme-là, elle parlait que ce sont les Africains qui traversent le Niger pour aller vers la Libye que les Nigériens ont pris pour tabasser. Alors, dès que moi, j'ai vu la vidéo, je savais que c'était un fake news et que c'est pas le Niger. Parce que le Hausa, même que ces gens-là sont en train de parler, c'est pas le Hausa du Niger. Vous voyez, non? Donc, maintenant, j'ai vu la femme qui avait animé ça en Côte d'Ivoire, qui a été aussi arrêtée. Je trouve que c'est très bien. Je pense que les autorités doivent continuer aussi à chercher l'autre femme aussi. Il y avait une femme, je ne sais pas, elle n'a pas un accent ivoirien, mais je ne connais pas l'accent.
Hein? Vous êtes content qu'on ait arrêté des gens qui, peut-être, agitaient ce spectre-là, ont mis de l'huile sur le feu sans vérifier des informations, c'est ça?
Et tout à fait, Stéphanie. Je voudrais ici vraiment féliciter l'intervention des activistes ivoiriens. J'ai même entendu le mardi ou bien hier même, j'avais entendu un auditeur qui avait parlé d'adulture, un Ivoirien qui est sorti pour sensibiliser les Ivoiriens. Vraiment, je tire ta peau pour ces activistes-là qui sont sortis rapidement pour démentir les choses et puis sensibiliser les Ivoiriens. Il y a les Ivoiriens au Niger aussi qui ont sorti leurs déclarations. On a vu les Adama Daïko qui ont parlé. Et j'ai vu même aujourd'hui un chef de la police qui est parti juste sur le terrain pour rassurer les Nigériens que rien ne va plus les arriver encore. Ça, vraiment, c'est un respect que je tire chapeau pour les Ivoiriens.
Eh bien, c'est très clair. Merci, Haruna. Allez, un petit mot, oui. 30 secondes, s'il vous plaît.
C'est juste concernant l'émission du mardi. Il y avait les gens
sur le pouvoir de père en fils.
Oui, moi je suis contre des choses comme ça, Stéphanie. On a vu l'exemple au Niger. Il y a des ministres, le président a fait, il a amené son fils. On a vu des ministres qui ont amené aussi leurs enfants. Comme ça. Et c'est comme ça que ça va se souvenir. Non, s'il vous plaît. Je n'ai rien. Ils ont les mêmes droits que nous. Mais quand ils ne doivent pas profiter, leur papa ne doit pas profiter des pouvoirs pour les apporter. Si la personne se bat en tant que citoyen pour arriver à ce poste-là, je suis parfaitement d'accord. Merci, Stéphanie.
Merci à vous, Haruna. Bonne journée à Francfort, en Allemagne. 33 1 55 07 58 00. C'est la libre antenne du journal des auditeurs. On se dirige au Bénin, retrouver mon cher Vincent. Vincent, bonjour.
Oui, bonjour, cher Stéphanie Ahmad.
Bonjour, Vincent. Bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous voulez revenir, hein? On en a parlé cette semaine, hein? Je crois qu'on en a parlé mercredi. Le retour annoncé de Karim Benzema en équipe de France.
Oui, tout à fait, vraiment, chère Stéphanie, je suis très d'accord pour son retour, parce que ça fait déjà près de 6 ans, en novembre 2014 ou bien 2016, qu'on l'a appelé jusqu'à présent. Aujourd'hui, Karim Benzema est revenu dans la sélection, dans sa sélection. L'ex-capitaine qui avait dirigé la Coupe du Monde pour son équipe, c'est-à-dire qui était le moteur de l'équipe entre-temps, et qui avait joué les huitièmes de finale face à l'Algérie, face les quarts de finale face à l'Allemagne, qui a été battu une fois, et le Brésil. Si Karim Benzema n'est pas dans cette sélection, je pense que vraiment c'est une mauvaise chose. Et aujourd'hui, son sélectionneur l'a compris finalement après la sollicitation et aussi après la suppléation de beaucoup de personnes du monde entier. Il a appelé. Je suis très d'accord. Je pense qu'il peut contribuer énormément à son équipe, à sa nation, parce qu'on voit bien ce qu'il fait au Real Madrid. Au Real Madrid, c'est lui le moteur, après quelques-uns, mais c'est lui. Et aujourd'hui, il fait partie des neuf, des meilleurs neuf. Mais si, avec ses talents, avec cette statistique qui est très noble pour lui, jouer au Real Madrid, c'est pas n'importe quel joueur, c'est pas n'importe qui. Et aujourd'hui, on ne l'appelle pas pour contribuer ce qu'il fait dans son club, à sa nation. Vous voyez que ce n'est plus un problème. C'est tout comme si une jalousie, je ne comprends pas. Mais Didier Deschamps a finalement compris et l'a appelé pour qu'il contribue surtout pour sa nation, pour cet héros. Mais une fois à l'héros, s'il n'a pas brillé, il faut le comprendre parce que vraiment, il s'est traumatisé.
Donc, le risque, effectivement, c'est si Karim Benzema ne brille pas à l'euro, hein, c'est qu'il soit la cible de critiques. Et on connaît hein, comment dans le football, les critiques sont faciles. Merci beaucoup, Vincent. Bonne journée à Beaumet-Calavi. On doit être 12h49. On se dirige à Abidjan, retrouver Gaoussou. Gaoussou, bonjour.
Bonjour, Stéphanie.
Bonjour Gaoussou, bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous vouliez revenir notamment parmi les sujets de cette semaine, c'est les délestages en Côte d'Ivoire.
Oui, les délestages en Côte d'Ivoire. Bon, on parle de délestages. Bon, moi, je pense qu'ici, bon, avec le rationnel, normalement, ce qui s'est passé il y a longtemps, dans le temps où il y avait les délestages, machin. Bon, il n'y avait pas d'investissement à ce niveau. Moi, ceux qui sont au pouvoir actuellement, bon, ils ont fait beaucoup d'investissements, à mon sens. Donc, je pense que ce n'est pas tout à fait le délestage. C'est pas comme ce qui s'est passé avant.
On rappelle hein, que finalement, selon le gouvernement et selon la CIE d'ailleurs, hein, ces délestages sont dus à des problèmes techniques sur la centrale thermique et puis aussi une mauvaise pluviométrie. Vous êtes plutôt. Vous croyez le gouvernement, c'est ce que vous dites, Gaoussou? Vous êtes plutôt d'accord avec ces raisons-là?
Oui, moi je suis un peu d'accord. Je suis d'accord parce qu'il y a beaucoup d'investissements. Il faut qu'on reconnaisse quand même qu'il y a quelque chose, il y a des efforts qui ont été faits. Ils sont en train d'être faits même. Donc vraiment, il faut leur donner les chances aussi. Parce que le gouvernement d'alors, non, pas fait d'investissement. Ça, il faut qu'on se dise la vérité à ce sens-là. Il n'y a pas eu d'investissement. Les trucs étaient vieillissants dans les trucs. Bon, le courant même pouvait couper par un temps. On pouvait rester même sans courant pendant 2 jours, 3 jours.
Ça. Donc pour vous, il y a quand même des investissements, c'est un peu mieux, Gaoussou. C'est pas trop pénalisant, là vous, en ce moment, vous êtes rationné, vous?
Oui.
Il y a du Gaoussou a décroché, je pense. Il y a du monde autour. Il est en train de discuter. Merci Gaoussou. Bonne journée, Babi. Vous nous écoutez sur 91.fm. Il reste une petite minute. J'aurais bien pris Moussa, mais alors si on me rend Moussa tout de suite, je le prends. Mais j'ai pas le temps. On va pas me rendre Moussa tout de suite. Alors on va écouter rapidement Konaté pour finir sur la Côte d'Ivoire. Bonjour Konaté.
Bonjour,
Monsieur Konaté. Vous voulez parler de la position d'Alassane Ouattara sur les médias, c'est-à-dire?
Oui, c'est-à-dire, les médias, en fait, ils s'en foutent.
Ça va?
Ils s'en foutent toujours de. Voilà, ils s'en foutent toujours de. C'est que les autres présents font, en fait. Mais quand c'est Ouattara, ils ont tout à fait un problème.
Oui, vous voyez revenir, Barafrique Média, voilà, il ne faudrait pas faire trop de pub à cette.
Voilà.
Je voulais juste aussi
condamner aussi. C'est que tous les Ivoiriens ont fait en Côte d'Ivoire sur les Nigériens, là. En tout cas, c'est impardonnable, quoi. Ça ne se fait pas, en fait.
Respect de la xénophobie. Hein, voilà. On a peut-être l'occasion d'en reparler la semaine prochaine.
Voilà, on est touché vraiment. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Nous, Africains, on doit s'aimer.
Bah, Moussa voulait réagir là-dessus aussi, mais on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Konaté. Merci de votre patience. Je m'excuse auprès de ceux qui n'ont pas pu intervenir. Voilà, on essaie toujours de prendre en priorité ceux qui se sont inscrits. Il y a Tanguy qui voulait évoquer la RDC, puis Solange qui voulait parler, défendre la cause des femmes en Afrique et en Europe. Je vous invite, madame, monsieur, à laisser vos messages sur le répondeur d'Africa Radio. Le numéro du répondeur, c'est le 33 1 55 07 58 05. 33 1 55 07 58 05. Vous l'entendez, c'est la fin de cette émission. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition du journal des auditeurs. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'Africa Radio, la seule, la vraie, l'unique radio panafricaine. À bientôt.